Nous allons donc commencer. On m'a demandé de parler du thème « L'accueil de l'étranger ». Et je suis peut-être bien placé pour en parler. Premier point, je suis un immigré. Deuxième point, je ne suis pas un étranger. La carte nationale d'identité, je l'ai. La carte de lecteur, je l'ai. Je m'en sers. J'ai un accent. Je suis un étranger. Surtout en fin de journée, quand je suis fatigué, et histoire des le et des la et des un et des une, et je commence à mélanger les pinceaux en fin de journée. Ouais, immigré, étranger, non, pas aux yeux de la loi, mais comme beaucoup, étranger aux yeux des compatriotes ou au moins à certains moments de la journée. Il aurait été peut-être facile de parler de l'accueil de l'étranger dans nos églises, et je vais le faire, mais on m'a demandé de parler de l'accueil de l'étranger en général et dans un contexte social avec des problèmes de vie en société que nous connaissons tous, et c'est ce que je vais essayer de faire. Je vais commencer par prier. Seigneur notre Dieu, j'aimerais te remettre ces instants où nous réfléchissons ensemble, nous essayons de discerner ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai, nous essayons de discerner aussi quel est le chemin que tu traces pour nous, quelles sont les façons de faire que tu voudrais nous faire adopter, quelles sont les attitudes qui doivent être les nôtres. Et devant une question à la fois complexe et profondément humaine, nous te demandons de nous accompagner par ta grâce et de nous inspirer par ton esprit. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons voir le plan, il est là. Je devais donc commencer par parler du racisme, ensuite de l'immigration. Quelques versets bibliques là. L'étranger dans l'Ancien Testament, un peu plus de versets bibliques. L'enseignement de Jésus, on n'aura pas le temps d'explorer la question de l'accueil dans les églises du Nouveau Testament, mais ils ont des problèmes. Et puis dans nos églises, la diversité culturelle, je n'en parlerai pas ici, à moins que ça ne surgisse dans le temps des questions, mais je pense avoir le temps et même le devoir d'aborder au moins brièvement le problème des chrétiens sans papier. Je vais commencer par la lecture d'un verset biblique, bien connu, Genèse 1, verset 27, qui nous rappelle que c'est Dieu, notre Créateur à tous, et que nous sommes tous porteurs de son image. Dieu créa les hommes pour qu'ils soient son image. Oui, il les créa pour qu'ils soient l'image de Dieu. Dans le Parisien de samedi dernier, le 26 avril, page 14, il était question d'une campagne menée par 6 élèves noirs de l'ENA. Les Français connaissent l'École nationale d'administration, l'une des plus hautes écoles de France, d'où sont issus des premiers ministres et je ne sais pas qui d'autre. Et ces 6 élèves dénoncent, non sans humour, le racisme de tous les jours. Pourquoi tu fais l'ENA? Tu veux être président de l'Afrique? Chouette! Non seulement tu parles bien le français, mais tu parles sans accent. Peut-être quelqu'un qui venait des Antilles ou quelqu'un qui était là depuis plusieurs générations. Et l'un de nos membres à Farmoutier ne va plus dans l'Intermarché de Farmoutier. Quand il passait à la caisse, il voyait bien que la caissière saluait tous les clients blancs, mais pas lui. Français, ingénieur, sain de corps et d'esprit, un peu trop bronzé, celui-là. Et dans le groupe de maison que je fréquentais à Ozoir-Ferrières, nous étions réunis un soir chez une famille née au Congo-Brazzaville. C'est la famille qui nous accueillait généralement. Ils sont nés là-bas, ils sont tous de nationalité française, et la dame travaillait à l'hôpital de Lagny comme aide-soignante. Elle racontait souvent ce qui se passait avec les malades. Il me semblait qu'elle s'en occupait avec beaucoup d'humanisme. Il n'y avait pas cette dureté à l'égard des vieux que l'on peut parfois rencontrer dans certaines maisons. Et un jour, dans le service des personnes âgées, justement, un homme la voit arriver pour faire sa toilette. Et cet homme crie de toutes ses forces, « Je ne veux pas que cette négresse me touche !» Heureusement que dans nos églises, nous pouvons créer des espaces où les gens peuvent raconter les humiliations qu'ils subissent et les faire entendre à des frères et des sœurs blancs qui les aiment mais qui peut-être ne se rendent pas compte. Vive les groupes de maison et vive des ateliers sur la diversité. Les exemples que je viens de vous citer, j'aurais pu citer un reportage sur France Info ce matin déjà, hein, un problème devant le tribunal de Nanterre. Mais voilà, des cas relativement anodins par rapport à l'idée qu'il y a différentes races humaines et que certaines races humaines sont supérieures à d'autres. Voici un cas du XVIIIe siècle qui est raconté par Jacques Blocher et Jacques Blandonnier dans le livre « L'évangélisation du monde ». Ça se passe en Afrique du Sud ou en Botswana. C'est un missionnaire morave du nom de Georg Schmidt qui se voit interdire toute activité pastorale et il finit par rentrer en Europe. Quel était le crime de Georg Schmidt? Il avait baptisé des animaux, à savoir 5 Hottentotes. Et pourtant, 50 ans plus tard, les successeurs de Schmidt ont trouvé dans son village une vieille dame croyante qui conservait un Nouveau Testament en hollandais dans laquelle elle avait appris à lire. Voilà pour la foi et la persévérance et la fidélité de ces 5 baptisés. Je vous recommande très chaleureusement l'article d'Alain Nézus sur le racisme dans La foi chrétienne et les défis du monde contemporain, paru l'année dernière chez Exercice. Et dans ce livre, on découvre qu'il y a différentes sortes de racisme. Je vous ai raconté, on va dire, le racisme ordinaire, instinctif de quelqu'un qui refuse la présence de quelqu'un qui a l'air un peu différent. Mais le pire de tous les racismes, c'est le racisme qui est bâti sur la théologie ou sur la science. Plutôt une pseudo-théologie, une pseudo-science. Au XVIIIe siècle, déjà, des scientifiques et des philosophes connus ont estimé que les Noirs étaient une sous-espèce inférieure et sus, pour certains, du métissage entre les hommes et les singes. Et parmi les personnalités connues dans le monde de la science ou de la philosophie, Alain Nézus cite Linné, Buffon, Hume, Haeckel. 18e siècle, d'accord, mais l'été n'est pas éteint au 20e siècle. Et Alain Nézus cite un prix Nobel de physique en 1956. Il estime pourtant que ce racisme scientifique a été abandonné aujourd'hui au profit d'un racisme culturel. Où est-ce que vous allez situer le discours de Jules Ferry, discours qu'il a prononcé devant les députés le 28 juillet 1885 pour justifier les conquêtes coloniales? Il dit ceci, « Les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'il y a un devoir pour elles, elles ont un devoir de civiliser les races inférieures. » Jules Ferry. Cette notion de race inférieure est absolument abominable parce qu'elle suppose que les jeux sont faits sur le plan génétique et que les uns sont appelés pour toujours à dominer sur les autres. Je ne vais quand même pas commettre l'erreur qui consisterait à dire que toutes les cultures se valent. L'Écossaise, Mary Slessor de Dundee, avait tout à fait raison de s'opposer à la mise à mort systématique des jumeaux chez certains peuples d'Afrique de l'Ouest. Elle avait raison à cause de l'éthique chrétienne et non pas à cause de la supposée supériorité des Blancs ou des Écossais. Mais il y a bien pire que Jules Ferry et compagnie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les Einsatzgruppen en Ukraine et dans le Caucase étaient accompagnés d'universitaires qui avaient comme mission de déterminer si telle peuplade était juive ou pas. Comment savoir si ce sont des juifs? Les universitaires devaient se prononcer sur la langue, sur les coutumes et sur la morphologie des visages. Il y avait toute une pseudo-science universitaire qui laissait aux uns la vie sauve et qui menait les autres à l'abattoir. La ségrégation aux États-Unis et l'apartheid en Afrique du Sud se fondaient entre autres sur ce genre de choses et peut-être encore plus sur des interprétations tendancieuses de textes bibliques. Alain Nusus examine ces arguments et ces textes. Maintenant, la science et la Bible sont absolument unanimes sur ce point. Il y a une seule race humaine. Tous les hommes naissent égaux en dignité et en droit, dit la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et les humains partagent le même génome à 99,9%. Entre personnes de la même soi-disant race, il y a autant de différences génétiques qu'entre personnes supposées de races différentes. Autant de différences au sein d'un groupement qu'à travers les différents groupements. En Adam, et c'est pour cela que j'ai lu ce verset, nous formons une seule et même humanité. Dieu a créé l'être humain à son image. Et pour les êtres vivants, c'est le seul acte de création où il n'est pas dit que Dieu créa chacun selon son espèce. Pour les humains, ce n'est pas dit. Voilà pour mon propos général sur le racisme, mais je vais quand même apporter quelques nuances, parce que vous pouvez imaginer que c'est un peu simpliste de dire des choses comme ça. La génétique est capable de dire que les Vikings sont passés au Pays de Galles, dans la région de Fishguard, parce que la distribution des groupes sanguins dans cette ville n'est pas typiquement gallois ou celtique. On n'a pas trouvé de vestiges archéologiques, mais on trouve des vestiges génétiques du passage des Vikings, qui étaient, je pense, surtout des hommes. Et tout le monde est capable de dire que telle personne, physiquement, est de type africain ou européen ou chinois. J'ai appris que nos amis africains peuvent souvent identifier la région d'origine d'un autre africain aussi facilement que les Européens distinguent un Suédois d'un Espagnol. Sauf quand le Suédois s'appelle Ibrahimovic. Et voilà le hic. Les gens se déplacent. Les soi-disant races se mélangent. Et c'est un casse-tête pour les racistes de tous bords. Mes petites filles ont un quart de sang anglais, un quart de sang écossais et une moitié de sang français. Qui sont-elles? On le dira plutôt d'après leur culture, elles sont françaises. Vous connaissez Gaston Kellman? Dans quelle ville, alors tu te tais, dans quelle ville d'Alsace est-il né? Je n'en sais rien. Son nom est alsacien, en tout cas. Mais il dit lui-même, d'après sa culture, que c'est un bourguignon. Et il a écrit un livre fabuleux, délicieux, magnifique. Ce livre s'appelle « Je suis noir et je n'aime pas le manioc ». Livre remarquable pour la chasse aux caricatures. J'estime que le racisme est naturel. Si les gens, il en fait ici un jour, hein, je pense, quelqu'un a demandé « Est-ce que vous êtes raciste ?»« Ouais, oui, je me sens un peu raciste. » Instinctivement, je pense que ça dépend un peu du contexte, mais les Anglais ou les Français sont supérieurs, en troisième lieu les Écossais, et après le reste du monde. Oui, il y a quelque chose d'instinctif qui fait que nous estimons tous que notre culture d'origine est peut-être la meilleure. Alors on fait un effort pour surmonter, chasser le racisme, il revient au galop. Il faut donc que les responsables d'église que nous sommes sachions montrer l'exemple, enseigner tout le conseil de Dieu et que nous soyons attentifs à l'insouciance des uns et à la souffrance des autres. Est-ce que nous pouvons mieux faire? Je pense que oui. Je pense que moi, je peux certainement mieux faire. Voilà ce que j'avais envie de vous dire sur le racisme. C'est lapidaire, mais il y a beaucoup d'autres choses à dire sur le thème de l'accueil de l'étranger. Je voulais commencer par là. Le deuxième volet, c'est le volet de l'immigration. Et de nouveau, je commence par un verset biblique. Maintenant, c'est Actes 17, verset 26. C'est le discours de Paul à Athènes. Qu'est-ce qu'il dit ? À partir d'un seul homme, Dieu a créé tous les peuples pour qu'ils habitent toute la surface de la terre. Il a fixé des périodes déterminées et établi les limites de leur domaine. Ce verset rappelle l'unicité de la race humaine et ajoute un autre élément, l'existence et la légitimité de peuples et de frontières. Pourtant, les frontières bougent. Paul le savait bien, lui qui connaissait non seulement l'histoire du peuple juif, mais l'histoire de sa région natale, la Cilicie. Il connaissait les conquêtes d'Alexandre le Grand, il savait les conquêtes de l'Empire romain. Il n'affirme pas ici l'immutabilité des frontières, mais il affirme que Dieu préside aux destinées des différents peuples. Cette humanité une et indivisible est tout de même diverse et dispersée. Il est donc normal de songer à son peuple. Bibliquement, je vois une illustration qui peut nous aider à comprendre comment un chrétien internationaliste, dans une église universelle, comment un humain non-chrétien, uni en Adam à tous, comment il peut se situer par rapport à cette question d'un pays et l'amour d'un pays. C'est l'idée des cercles de responsabilité. Et les trois versets qui sont peut-être déjà affichés vont vous dire un peu comment cela, cette logique se conçoit. Paul dit à Timothée, « Si quelqu'un ne prend pas soin des siens, en particulier des membres de sa famille, il a renié la foi, il est pire qu'un incroyant. » Même si en Adam, je suis le gardien de mon frère, de tous mes frères, j'ai une responsabilité particulière et prioritaire envers mes parents, c'est là le contexte, envers mon conjoint et mes enfants et à ceux de ma propre famille. Un premier cercle de responsabilité. Paul avait écrit aux Galates pour les inciter à pratiquer le bien envers tous, surtout envers ceux qui appartiennent à la famille de la foi. Et alors, ça c'est plus large que la famille de sang, mais il dit « pratiquer le bien envers tous, je suis le gardien de mon frère en Adam, et en particulier, je dois faire du bien envers ceux qui font partie de la famille de Dieu ». Un troisième cercle de responsabilité, je la vois dans la lettre que Jérémie envoie à ses compatriotes déportés à Babylone. Ils doivent se préoccuper du bien de la ville où ils se trouvent. Or, c'est une ville païenne. Et en plus, c'est une ville païenne qui appartient à un peuple qui les a déportés et qui a tué des milliers des leurs. Ils doivent se préoccuper du bien de cette ville. Voilà donc un cadre qui va au-delà de la famille proche, au-delà de la famille élargie, au-delà de l'Église, jusqu'à la ville. C'est encore sans doute à taille humaine et gérable. Il y a donc une certaine logique, je dirais biblique, à s'intéresser au bien de son pays. L'Église est issue de toutes les nations de la terre, elle n'a pas de frontières à défendre, elle ne gère pas les tribunaux et les prisons, mais les chrétiens paient leurs impôts, manifestent leur respect envers l'empereur dans les temps bibliques, même quand il s'appelle Néron, et ils prient pour ceux qui exercent l'autorité. Les chrétiens ne sont donc pas des apatrides. Ils ne sont pas non plus patriotes dans un sens étroit et xénophobes. Les chrétiens ont une double nationalité, terrestre et céleste, et sauf exception, ils remplissent leurs obligations envers les deux. Alors que penser de l'immigration ? Très présente dans la Bible. Abraham quitte son pays, ses descendants vont en Égypte, les Égyptiens finissent par se dire qu'il y a trop d'étrangers chez eux. Les descendants de Jacob quittent l'Égypte pour Canaan. Ruth quitte Moab pour Bethléem. David recrute pour sa garde personnelle des hommes de Crète, voire des Philistins. La guerre et l'exil poussent les Juifs vers l'Égypte de nouveau, vers l'Assyrie, vers Babylone. Dans le Nouveau Testament, on les trouve à Rome. Vous avez toute une liste de pays où ils se trouvent dans Acte 2. Bref, les déplacements individuels et collectifs font partie de l'histoire des Israélites et de l'histoire des hommes. Il est quand même difficile de parler de l'immigration parce que le thème est utilisé par des partis politiques qui jouent beaucoup sur la peur de l'autre, qui exploitent parfois à mauvais escient des chiffres, etc. Et j'aimerais distinguer clairement entre les faits et les fantasmes. Dans les faits, on peut reconnaître l'arrivée en France d'immigrés venus d'Afrique du Nord, de Haïti, d'Afrique noire, de Chine, de l'Asie du Sud-Est, et depuis peu, nous avons des immigrés est-européens. Je n'oublie pas le cas particulier des Antillais français, qui souvent subissent les mêmes désagréments que les autres. Et avant cette immigration récente, que l'on dit souvent visible, nous avions en France des Portugais, ils sont nombreux à Ozoir et à Ponto, et avant eux, des Italiens, des Polonais, des Russes blancs, à Mulhouse on m'a parlé de gens venus d'autres pays comme la Yougoslavie, etc. C'est un fait permanent dans l'histoire de la France, ça ne s'est pas arrêté, et pour Mulhouse, Jean-Pierre Bellefleur me dit qu'en fait c'est l'arrivée des immigrés qui a permis l'essor économique et industriel de la ville. Selon une étude de l'INSEE, en 2008-2009, entre 12 et 25% des immigrés sont diplômés de l'enseignement supérieur. Ça va complètement à l'encontre des fantasmes. Donc une chance pour la France. Mais il faut reconnaître aussi, sans faire de l'angélisme, que certaines catégories posent aux Français blanc des problèmes réels ou imaginaires. Je pense en particulier au risque de l'intégrisme qui touche certaines populations plus que d'autres. On récolte ce que l'on sème, dit la Bible. Je trouve qu'en France, comme en Angleterre, on récolte ce qu'on a semé par les guerres coloniales et l'Empire et la pratique de l'esclavage. Comment se fait-il qu'il y ait tant de maghrébins en France? pas. C'est parce que nous sommes partis là-bas pour civiliser des races inférieures sans leur donner trop de droits, mais surtout pour conquérir, dominer, nous enrichir. Et maintenant, la roue tourne. Après la guerre, la France s'est cherché une main-d'œuvre docile et bon marché. Elle a fait venir des Algériens, des Antillais, et maintenant les enfants de ces travailleurs réclament leur place dans la République. Mais de quoi se plaint-on? L'immigration, on l'a cherché. Je compare avec l'Allemagne. Le cas de l'Allemagne prouve que tout n'est pas dans ce tour de manivelle de l'histoire. L'Allemagne a perdu son petit empire colonial en 1919. Mais elle a aujourd'hui une immigration qui, selon certains, est plus forte que l'immigration en France. J'ai vu une étude qui parlait de 8% de la population allemande qui serait étrangère et 12% pour la France. J'ai vu une autre étude qui mettait la France au même niveau que l'Allemagne avec 12% dont un petit tiers d'immigrés issus de l'Union européenne. Ah, ces études, c'est compliqué. Immigrés, étrangers, français d'origine étrangère, jusqu'aux parents, jusqu'aux grands-parents, c'est compliqué ces affaires-là. Mais notre essor économique, notre stabilité politique et notre démocratie attirent les gens du monde entier. Selon l'INSEE, si on compte les immigrés et les descendants directs d'immigrés en France, par exemple moi et mes enfants, ou M. Sarkozy, on arrive à 19% de la population. En 2008, le solde migratoire était de plus 67 000 personnes. S'il y a des gens qui partent, 60% partent. Voilà donc pour quelques faits, et si vous voulez vraiment approfondir la question, j'ai trouvé bluffant la finesse de l'article de Wikipédia. Maintenant pour les fantasmes, ces fantasmes qu'exploitent les politiques. Il y a trop d'immigrés, ou trop d'étrangers. Est-ce que je peux me permettre de dire les choses comme les gens le disent? Il y a trop de Noirs, il y a trop d'Arabes. Qui le dit? À mon sens, il y a des gens qui peuvent se dire légitimement inquiets pour leur ville et pour leur identité. Il y a des gens qui gambergent. Il y en a beaucoup. Dans notre département de Seine-et-Marne, par exemple, il y a l'ouest de la Seine-et-Marne très urbanisé, avec beaucoup d'immigrés, notamment autour de Torcy, des personnes venues de l'Asie du Sud-Est ou de la Chine. Mais en Seine-et-Marne, ce n'est pas là que le Front National est fort. C'est dans l'Est, pas dans la partie près de Paris, pas dans l'Ouest, mais dans l'Est, dans la partie rurale, où se situe Farmoutier, la Ferté-sous-Jouarre. C'est dans des régions comme ça où il n'y a pas beaucoup d'étrangers, où on peut aller faire ses courses sans croiser un noir. C'est là qu'on vote Front National. C'est le fantasme du beurre de l'autre. Et aux amis suisses, je me permets de vous rappeler que dans la récente vocation, ce ne sont pas des cantons comme Genève qui accueillent des étrangers, qui ont estimé qu'il fallait limiter l'immigration en Suisse, c'était des cantons ruraux et montagnards. Le refus de l'étranger, le refus de l'immigré est fort là où il n'y en a pas. Et là, on gamberge. Ce n'est pas sans reconnaître que dans certaines villes ou dans certains quartiers, l'Européen va avoir l'impression de ne pas être chez lui à Trappes, par exemple, à Torcy, dans les écoles à Torcy, dans certaines villes du sud de la France. Oui, je suis d'accord. Les gens peuvent dire que ce n'est plus tout à fait la ville de mon enfance. Mais ce n'est pas l'immigration d'aujourd'hui qui fait que l'autre s'installe dans ma ville et en change le visage. C'est l'immigration d'hier. Je ne fais donc pas dans l'angélisme. Il y a des populations où le risque d'intégrisme religieux est fort. Il y a des communautés où la délinquance semble bien installée. Mais le racisme ordinaire touche des gens qui travaillent, qui payent leurs impôts, qui construisent la société de demain. Certaines politiques s'en repaissent. Devant la caisse de l'Intermarché de Farmoutier, Vous aviez un citoyen français. À l'hôpital de Lagny, il s'agissait d'une citoyenne française. Et moi, naturalisé français, aux yeux bleus et aux cheveux clairs, je ne rencontre pas ce genre de rejet. Pourquoi ? Ah, parce que je n'ai pas une tête d'immigré. On est dans le fantasme souvent. Ils pompent l'argent de la sécurité sociale. Mais c'est faux. Je l'ai lu à plusieurs endroits. Je l'ai même entendu dans un reportage de France Info. Les immigrés en situation régulière contribuent bien plus aux caisses de la sécurité sociale qu'ils n'en retirent. Et c'est normal parce qu'ils sont relativement jeunes et ils travaillent. Les étrangers en situation irrégulière n'ont droit à rien. Ce ne sont pas eux qui pompent les caisses de la sécurité sociale. Encore une fois, on est dans le fantasme et on n'est pas dans la réalité. J'en viens maintenant à l'Ancien Testament. Que dit la Bible sur l'accueil de l'étranger ? J'ai déjà donné quelques pistes, mais j'aimerais réfléchir à ce qui se passe dans l'Ancien Testament. Et là, vous voyez un premier point, ça peut être l'ennemi, ça peut être l'ami. La première impression qu'on a, c'est que c'est l'ennemi. Il vient attaquer Israël dans le désert, il envahit son territoire, il confisque ses terres, il détruit des villes, massacre leurs habitants, les emmène en captivité avec des centaines et des milliers d'hommes et de femmes et d'enfants. Oui, l'étranger... ennemis. Les prophètes sont nombreux à dénoncer le jugement, à annoncer le jugement de ces nations étrangères cruelles. Mais l'étranger peut aussi être l'ami ou l'allié. Du temps où il était pourchassé par Saül, David a mis sa famille en lieu sûr chez les Moabites. Il avait cette garde personnelle composée de Kérétiens et de Pélétiens, je l'ai mentionné tout à l'heure, venus de Crète et du pays des Philistins. Le valeureux Uri était hittite, et Salomon était le grand ami et l'allié de Hiram, roi de Tyr. L'étranger peut être ennemi, peut être ami et allié. Et c'est la même chose sur le plan spirituel. L'étranger peut être une menace, mais il peut être aussi un converti. La menace, ben, les peuples de Canaan, avec leurs mœurs dégradées et leur religion idolâtre. Les femmes étrangères qui entraînent Salomon loin de Dieu, le culte assyrien qui pénètre en Juda du temps d'Ésaïe, le combat d'Ezra et de Néhémie, on l'a lu hier soir. En Daniel, c'est Antiochus Épiphane, annoncé par le prophète. La résistance, la rupture, le refus s'imposent, il n'est pas question d'accueillir ces étrangers-là. Menace. Spirituel. Mais des convertis, il y en a. Je pense à Rahab, cette dame de Jéricho, qui avait un peu trop l'habitude d'accueillir des hommes chez elle. Ruth, la Moabite, justement célèbre, ancêtre de Jésus-Christ. Les étrangers pour qui Salomon prie lors de l'inauguration du temple, ils viendront, ils prieront le Dieu d'Israël à Jérusalem et Dieu les exaucera. Naaman, le général syrien, converti grâce au témoignage d'une jeune servante. Et en fait, le thème des étrangers qui se convertissent parcourt l'Ancien Testament d'un bout à l'autre. La promesse faite à Abraham, c'est que toutes les nations de la terre seront bénies à travers lui et sa postérité. Dans les psaumes, David invite les nations à louer Dieu avec lui, et Ésaïe dit que le serviteur de l'Éternel sera la lumière des nations. Je trouve donc dans l'Ancien Testament deux façons de traiter les étrangers, le combat et la séparation d'une part, ou l'amitié et l'ouverture en vue de la conversion et la bénédiction. Suivant les époques et les auteurs bibliques et les circonstances précises, l'un ou l'autre de ces thèmes va dominer sans jamais exclure l'autre. J'aimerais maintenant... avant de quitter l'Ancien Testament, faire remarquer une troisième façon de regarder l'étranger. On peut parler non seulement de l'étranger comme un ami ou un adversaire, L'Ancien Testament parle aussi de l'étranger comme quelqu'un qui est en position de faiblesse et qu'il faut protéger. Je pense particulièrement à la loi de Moïse. Et il faut que je vous lise plusieurs versets qui vont s'afficher et qui sont tellement contraires aux mentalités modernes. Lévitique, Exode, Deutéronome. Si un étranger vient s'installer dans votre pays, ne l'exploitez pas. Traitez-le comme s'il était l'un des vôtres. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. Tu l'aimeras comme toi-même, car vous avez été vous-même étranger en Égypte. En Deutéronome encore, tu ne fausseras pas le cours de la justice au détriment d'un immigré, ni d'un orphelin, et tu ne prendras pas en gage le vêtement d'une veuve. On ne fausse pas le cours de la justice au détriment des immigrés. La dîme de la troisième année est pour les plus démunis, les lévites, les orphelins, les veuves et les immigrés. Lévitique 25. Si ton prochain qui vit près de toi s'appauvrit et tombe dans la misère, tu lui viendras en aide, même s'il est étranger ou immigré, afin qu'il survive à côté de toi. Et les versets que j'ai lus là, il y en avait d'autres, au moins deux fois plus. Les références sont dans mon texte. Si je le mets sur le site, vous les aurez. Soyons justes. Toute la législation de Moïse n'est pas égalitaire pour ce qui est des étrangers. Elle est très sévère pour les sept nations de Canaan en particulier. Parfois, les Israélites de souche sont privilégiés pour l'octroi des prêts, par exemple, sans intérêt pour les uns, avec intérêt pour les autres. Je dois vous dire que tant que je n'étais pas naturalisé, je trouvais tout à fait normal de ne pas voter aux élections en France. Si le terme n'était pas devenu la marque de fabrique de tel parti que je ne nommerai pas, je trouverais tout à fait normal de parler de préférence naturelle. Je ne peux pas le dire aujourd'hui. Mais je trouve frappant que la loi ne parle pas seulement de protéger l'immigré étranger, pas seulement le protéger, mais de l'aimer comme soi-même et de le considérer comme son prochain. C'est quand même très frappant. Alors nous n'allons pas transposer cette loi qui était celle d'un peuple agricole du deuxième millénaire avant Jésus-Christ à une civilisation urbaine du troisième millénaire après Jésus-Christ. Israël n'est pas la France, Israël n'est pas l'Église, l'alliance de Dieu avec Israël pointe vers Jésus-Christ. Mais cette loi de Dieu doit certainement inspirer l'attitude que nous adoptons à l'égard des étrangers qui vivent au milieu de nous. L'enseignement du Seigneur Jésus. On pourrait trouver plusieurs éléments qui sont pertinents pour notre sujet. Par exemple, cette parole qui dit que les étrangers trouveront place au banquet avec les patriarches, alors que les scribes et les pharisiens seront exclus. Ou alors la foi d'un centurion donnée en exemple aux Israélites. Si le ministère terrestre de Jésus se concentre sur le peuple juif, des étrangers et des samaritains sont parfois mis en valeur, sans oublier que les apôtres seront envoyés auprès de toutes les nations. Mais j'aimerais insister sur un point dans l'enseignement de Jésus qui prend le relais de ce que nous venons de lire dans la loi. C'est la définition du mot « prochain ». Si la loi nous dit d'aimer notre prochain comme moi-même, comme nous-mêmes, et c'est le deuxième commandement entre tous, il y a une mentalité légaliste qui va chercher à définir ce prochain. Et en fait, pour mieux exclure certains, j'aurai une obligation envers les vrais prochains, mais je n'aurai peut-être pas d'obligation envers des gens qu'il est impossible d'aimer. Nos ennemis, les Samaritains, les pêcheurs et les péagers, ceux-là ne sont pas nos prochains. Et vous voyez tout de suite la pertinence du sermon sur la montagne. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, aussi bien que sur les bons, et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Ce n'est pas dans la loi de Moïse de haïr ses ennemis. Ça, c'est l'interprétation traditionnelle enseignée très clairement dans les documents de Qumran. Jésus, lui, ne pose pas de limite à la notion de prochain. Et il en est de même lorsqu'on lui demande quel est le commandement le plus important. La réponse est classique. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force, aimer son prochain comme soi-même. Oui, mais qui est mon prochain? On est de nouveau dans la tentation de délimiter le prochain pour que certains n'en soient pas dans le coup. Jésus répond avec l'histoire que nous connaissons si bien, la parabole du bon samaritain. Et c'est ici un étranger, un homme détestable, qui est donné en exemple à Israël. Qui a été proche de l'homme qui gît blessé au bord de la route? Pas ses compatriotes, mais un homme dont l'interlocuteur n'arrive même pas à prononcer le nom. Il ne peut pas dire que c'est le Samaritain qui s'est montré proche du blessé. Il dit, c'est celui qui a pris soin de lui. Voilà, nous sommes donc appelés, je crois, très clairement à nous intéresser au sort de tous ceux que la vie laisse au bord de la route. En Adam, le blessé et le Samaritain sont nos prochains. Je dois être un prochain pour l'étranger, au moins pour celui qui croise mon chemin. Je n'ai pas le choix. Je dois l'aimer. Alors, pour le Nouveau Testament, nous pourrions aller plus loin. Nous pourrions parler de ces conflits à Corinthe, à Rome, en Galatie et ailleurs. On n'a pas le temps. Vous verrez dans la version longue de mon texte, peut-être, si j'arrive à le mettre sur mon site. Mais je garde cependant ce très beau verset de l'apôtre Paul, justement dans le contexte des relations difficiles entre juifs et païens convertis. « Accueillez-vous donc les uns les autres, tout comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Par rapport au monde, nous sommes tous des étrangers, nous qui sommes dans l'Église. Nous sommes tous des immigrés temporaires. Nous sommes tous des gens de passage. Mais par rapport au peuple de Dieu, nous sommes tous chez nous. Nous sommes tous des gens de la maison. Et c'est pour cela que Paul dit aux chrétiens de Colosse, dans cette nouvelle humanité, il n'y a plus de différence entre juifs et non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que le Christ, lui qui est tout et en tous. Les différences culturelles existent bel et bien, elles sont honorables, il faut les reconnaître, mais ces différences culturelles sont très secondaires par rapport à l'unité en Christ. Dans l'Église, nos chrétiens subissent ce qui se passe en société. Ils entendent en fait un double langage. Du haut de la chair, cela va être, j'espère, un discours de respect, de tolérance et d'accueil. Mais avec certains membres de leur famille, peut-être, au travail, dans le club des randonneurs, lors des élections, les chrétiens vont entendre des messages à l'emporte-pièce qui forcément les influencent. Et nous devons donc soigner cet accueil en Église. Accueillez-vous donc les uns les autres pour la gloire de Dieu. Le premier temps de l'accueil, c'est ce qui se passe quand quelqu'un franchit le seuil de l'Église pour la première fois. Si c'est un chrétien de passage, s'il est bien dans sa peau, il n'aura pas de difficulté à dire, même devant tout le monde, qui il est et pourquoi il est là. Mais une personne en recherche spirituelle aura envie de rester le plus anonyme possible. Ça peut être un chrétien en difficulté, en recherche, ça peut être un non-chrétien. Et ces personnes-là n'auront pas envie de se faire connaître à tout le monde. C'est très délicat pour la personne qui serre la main à l'entrée de l'église. On peut poser parfois trop de questions, ou parfois pas assez. Et c'est très délicat dans ces églises où tout le monde connaît tout le monde, et où, au début du culte, on demande aux nouveaux de se dénoncer. Dans le respect des habitudes françaises, me semble-t-il, l'accueil doit respecter le droit à la vie privée. Mais, quand ils viennent dans une église française et qu'ils sont originaires d'autres pays, d'autres continents, ils peuvent attendre tout à fait autre chose en matière d'accueil. Ils s'attendent peut-être à être apostrophés du haut de la chair, et ils se lèvent, ils sont fiers de dire devant tous qui ils sont et pourquoi ils sont là et avec qui. Et si vous ne leur donnez pas l'occasion de décliner leur identité devant tous, certains vont repartir en disant qu'ils ont été mal accueillis, peu importe la chaleur exprimée que la personne qui était à la porte. Entre l'anonymat voulu par les uns et la reconnaissance publique recherchée par les autres, comment peut-on faire? Une formule peut-être, à mi-chemin, on peut demander au début du culte ou à la fin s'il y a des personnes qui ont envie de se présenter. C'est subtil, ça peut nous sauver. Le culte se termine donc, et voilà que tout le monde est appelé à rester pour un repas d'église. Et c'est de nouveau compliqué. Dans mon expérience, les Français blancs n'ont pas de problème avec un repas tiré des sacs. C'est courant, c'est pratique, et certaines familles prévoient large. Mais j'ai eu très nettement l'impression que les Africains ont le repas tiré des sacs en horreur. Il n'est pas fraternel, il n'est pas un lieu de partage, c'est l'expression du chacun pour soi. Et si vous annoncez un repas tiré des sacs, les familles africaines vont préparer une montagne de riz, du poulet, des beignets, et à la fin, ça ne les inquiète pas, on va partager. Seulement, les blancs ont amené chacun son casse-croûte. Et le risque, c'est que de chaque côté, on se regarde comme des êtres bizarres. Les Africains pour dire que les blancs sont égoïstes, et les blancs pour se dire que les Africains n'ont rien compris. Comment est-ce qu'on peut s'en sortir? Je crois qu'on peut le faire en expliquant à chaque fois les règles du jeu, peut-être même en faisant des allusions claires aux cultures qui préfèrent telle ou telle formule. Il faut expliquer les règles du jeu et il faut varier les formules, me semble-t-il. Être bien à table les uns avec les autres, ça ne va pas de soi, mais cela s'apprend. Voilà donc un premier niveau d'accueil. Mais ensuite, on peut parler ensuite de l'intégration des nouvelles personnes dans l'Église. Et le mot intégration, c'est pas tout à fait la même chose que l'assimilation. Avec l'assimilation, on va dire « je ne veux voir qu'une tête ». C'est la notion ultra-républicaine. Ils sont tous pareils, exactement pareils. Et dire qu'il y a une différence, c'est du communautarisme, c'est pas possible. Il y a une seule république, il y a un seul corps de Christ, tous en Christ, une seule tête. Ça, c'est l'option assimilation. Je n'aime pas trop ça, mais intégration, oui, comment faire pour que les gens venus d'ailleurs s'intègrent dans l'Église? Je pense que dans un sens, il n'y a pas beaucoup de différence entre la famille haïtienne qui y arrive et la famille de Moutier qui déménage à Bienne. L'intégration dans l'Église, c'est toujours la même chose, c'est acte 2, la communion fraternelle, l'enseignement, la prière en commun, la fraction du pain, des groupes de maison pour favoriser des échanges personnels, l'hospitalité, des visites personnelles, tout cela va jouer, et la participation active à différentes actions. Et petit à petit, les nouvelles personnes apprennent à vous connaître, vous apprenez à les connaître, ils assimilent vos valeurs et votre histoire, ça c'est important, et ils finissent par faire corps avec vous. C'est un peu différent pour l'étudiant qui est là pour un an ou deux. Et on va tout faire pour qu'il soit soutenu, accueilli et encouragé. On pourrait peut-être lui demander quelques services. Mais il ne va pas s'attendre à ce qu'il s'intègre pleinement. Il repart peut-être un week-end sur deux. Il sait qu'il ne va pas rester. Vous savez qu'il ne va pas rester. Et sauf exception, il ne va pas se lier profondément à vous et vous n'allez pas vous lier profondément à lui. Mais quand il s'agit d'une famille venue de loin et qui a vocation à rester, les différences culturelles peuvent compliquer notre tâche. Plusieurs de nos églises souffrent, par exemple, de la double appartenance ecclésiastique de certaines familles. Un dimanche sur deux, ils ont un Nogent ou un Moissy, parce qu'ils apprécient l'ordre, ils apprécient l'enseignement. Un dimanche sur deux, ils sont ailleurs, dans un milieu plus chaleureux, plus charismatique peut-être, plus en lien avec le pays d'origine. Et on peut se dire, mais comment demander aux gens de choisir entre deux cultures qu'ils apprécient? Vous ne pouvez pas me demander de choisir entre ma culture anglaise et française. Mais derrière ce problème, il y a, il me semble surtout le problème de la conception que les gens peuvent avoir de l'Église. Jusqu'à très récemment, en tout cas, le modèle évangélique français était un modèle d'église militante composé de gens engagés. S'ils venaient, c'est parce qu'ils comprenaient que le disciple de Jésus-Christ vit sa foi en église avec ses frères et que la marche de l'église dépend de l'implication forte de chacun. Mais à l'opposé, vous avez l'idée que l'Église est une sorte d'institution, une grande institution, dont on peut profiter en venant prier le dimanche. Les uns disent « Tu fais partie de quelle Église ?» et les autres disent « Tu vas prier où ?» C'est pas pareil. Et pour sortir de cette mentalité, il faut enseigner l'Église, faire vivre l'Église le dimanche et en groupe de maison. Et ça ne peut pas se faire automatiquement. On peut faire partie d'une grande Église tout en étant engagé. Et quelques églises, on va dire, haut de gamme dans les moyennes églises ici, en savent quelque chose. Mais on peut aussi fréquenter l'Église comme on fréquente un McDo. Et nous devons lutter contre cette tendance. Je ne peux pas ici développer le thème plus général de la gestion de la diversité en Église. Donc, je vous renvoie au chapitre 20 de mon livre, à Jean-Claude Girondin, dans le dictionnaire de théologie pratique, et à d'autres sources encore, il y a des gens qui ont réfléchi à ça. Mais il va falloir que je m'arrête dans 5 minutes après avoir parlé de l'accueil des étrangers chrétiens en situation irrégulière. Peut-être y a-t-il ici des collègues qui en savent bien plus que moi. Et je vais donc me contenter de poser quelques jalons, 3 jalons. Premier principe, prendre un petit peu de recul. Moi, je suis un homme bien intégré dans mon pays. Je vis raisonnablement bien, et les miens restés au pays bénéficient d'un niveau de vie et d'un niveau de protection sociale élevé. Et donc, par rapport aux sans-papiers, j'ai peur de faire comme les pharisiens. Leur imposer un lourd fardeau sans lever le petit doigt pour les aider. Tel jeune a menti sur son âge pour pouvoir être envoyé en France par un réseau d'intermédiaires du foot. Et maintenant qu'il s'est cassé la cheville, il est abandonné à lui-même et ne peut même pas prétendre à la protection des mineurs qu'offre la France. Il s'est déclaré majeur. Si je lui fais la morale pour son mensonge, il aurait le droit de me dire « Et toi, à Évian, tu manges de la viande 2 fois par jour ?» 2 poids, 2 mesures. Donc je pense qu'il est juste de commencer avec un regard tolérant. Telle personne est venue en touriste, elle a dépassé les 6 mois, elle reste, et elle envoie au pays tous les mois de quoi nourrir 10 de personnes. Bon, pour travailler, elle a pris la carte d'identité de quelqu'un d'autre. Vous mettez ça dans la balance avec l'extrême pauvreté d'une dizaine de personnes, ça ne pèse pas bien lourd. J'ai connu un pasteur en Bretagne qui lui aussi fabriquait des faux papiers. Paul Reynaud. C'était en 1942. La vie humaine, je ne l'ai pas connue en 1942. Quand même. La vie humaine est plus importante que les papiers. Et qu'est-ce qu'on va dire de ceux qui ne sont pas expulsables, mais qui ne sont pas régularisables non plus? Certains sont pris dans un maquis kafkaïen dont il est impossible de sortir. Donc, premier point, le recul s'impose pour vraiment évaluer ce qui est en train de se passer. Deuxième point, et cela va paraître contradictoire, un chrétien est appelé à vivre dans la vérité. Le mensonge fait partie des œuvres du diable, ou en tout cas, fait partie de la vie sans Dieu. Mercredi matin, Chris Short nous a parlé d'une haïtienne qui a menti au sujet de ses enfants, non seulement aux autorités françaises, mais à son pasteur et à tout le peuple de son église. Elle a fait venir ses soi-disant enfants qui étaient en réalité ses sœurs. Et j'estime qu'elle a menti à l'église sans aucune nécessité. Juste pour la frime. Juste pour avoir une belle cérémonie de mariage. Et je trouve que le pasteur avait certainement raison de réagir. Mais dans d'autres cas, il y a des magouilles de différentes sortes qui ne visent pas à frimer, mais plutôt à manger et à faire manger. Même là, je crois qu'un chrétien est appelé à vivre dans la vérité. Il ne peut pas se contenter du mensonge, il ne peut pas en faire un mode de vie. Il doit viser la régularisation de sa situation. Et c'est là que vous avez ma troisième considération. Il y a un temps pour tout. Dans le Nouveau Testament, il y a un bel exemple de régularisation qui montre que le facteur temps n'est pas négligeable. Dans sa prison à Rome, Paul a rencontré un homme qui essayait de se cacher, un esclave en fuite. La loi romaine aurait voulu que cet esclave, Onésime, soit ramené à son maître, et ce maître avait le droit de le punir sévèrement. À certaines époques, et il faudrait que je vérifie pour l'époque de Néron, à certaines époques, si l'esclave mourait suite à une punition, la loi romaine ne trouvait rien à redire. Le maître avait fait comme il voulait avec son bien, après tout, l'esclave, c'était son argent. Mais Paul ne dénonce pas Onésime et ne le réexpédie pas tout de suite vers son maître. Onésime a le temps de se rendre utile à l'apôtre, de se faire aimer de l'apôtre et en même temps d'approfondir sa nouvelle foi en Christ. C'est au moment opportun que la régularisation s'est faite lorsque Paul envoie à Philémon une lettre portée par Tychique et par Onésime lui-même, une lettre où Paul plaide en faveur de son enfant spirituel. Si donc nous mettons en avant la nécessité de vivre dans la vérité, mettons aussi tout en œuvre pour que nos frères et sœurs puissent vivre dans la vérité et accordons-leur le temps qu'il faut pour le faire dans de bonnes conditions. Quelques mots de conclusion. Difficile de conclure tellement d'éléments, mais peut-être peut-on noter certaines choses. Est-ce qu'on les a? Voilà. Nous sommes dans un monde où les gens se déplacent beaucoup. C'est un fait et un fait ancien. L'accueil de l'étranger est une obligation pour le chrétien. Le racisme n'est pas une option. Nous sommes solidaires d'abord en Adam et ensuite dans l'Église, nous sommes solidaires en Christ. J'ajoute ce que j'aurais dû mettre dans le corps du texte, que cet accueil de l'étranger pour des institutions, pour les organismes, dépend des ressources disponibles. Combien de places dans un foyer pour des demandeurs d'asile? Combien d'argent disponible à la préfecture, enfin au conseil général de Seine-et-Marne? Combien d'argent disponible dans le budget de l'État? Combien d'argent disponible dans l'Église? Combien de personnes disponibles? Mais le principe de l'accueil, me semble-t-il, est incontournable. Ensuite, on est devant des questions de moyens. L'accueil de l'étranger, une obligation, solidaire en Adam et en Christ, ce qui n'exclut pas de réelles différences de culture, où nous avons donc un devoir, un effort à faire pour aller au-delà du choc de la différence, pour manifester notre solidarité. J'estime que si dans l'Église nous arrivons à faire quelques progrès dans ce domaine, nous serons un exemple pour le monde. Et déjà, je sais que certains nous regardent et admirent le peu que nous faisons. Nous pouvons faire un peu plus. Je vous remercie et j'attends avec impatience vos questions et vos compliments.